Bonjour messieurs, mesdames. Bien voilà, je vous ai fait part lors de la dernière conférence de mes soupçons sur l'emplacement de l'offrande de Haouma dans les Gata. Nous allons tous y réfléchir et nous allons changer de département parce qu'après avoir vérifié les données du rituel, nous allons tenter de vérifier les données de l'eschatologie. L'eschatologie, à la fois individuelle, c'est-à-dire le destin de l'âme de chaque individu après la mort, ou collective, c'est-à-dire le destin de l'humanité et du monde, a été, comme je vous l'ai exposé lors de notre introduction, la clé par laquelle Bartholomée interprétait ce qu'il appelait les sermons des Gata. L'eschatologie, la double eschatologie, c'est le postulat de la situation de référence qu'a fait Bartholomée. Car la situation de référence, celle dans laquelle il imagine le discours gathique, c'est qu'un prophète parle à une communauté humaine, et naturellement avant tout à ses chefs, pour affirmer que les actes seront récompensés ou punis, et pour prédire la fin des temps, comportant un jugement dernier. Or, ça, c'est le schéma de Bartholomée. Pour ce qui est de l'Avesta récent, car il faut bien partir par là, puisque le document le plus proche des Gata que nous avons, c'est bien entendu l'Avesta récent, pour ce qui est de l'Avesta récent, on ne peut pas négliger le poids de l'eschatologie. C'est évidemment un des éléments, peut-être l'élément prépondérant du mazdéisme de l'Avesta récent. Tout d'abord, l'eschatologie individuelle. Je vous raconte, je campe les données du problème. Nous disposons, pour comprendre dans une certaine mesure comment fonctionne l'eschatologie individuelle de l'Avesta récent, d'un texte qui ne fait pas partie de la double liturgie que Geltner a édité, mais d'un fragment en langue avestique transmis à l'intérieur de certains textes Pelvi. Ce fragment, par son titre, nous pouvons le situer dans le cadre de la littérature avestique. C'est un hadokt. C'est un texte que l'on récite complémentairement, littéralement. C'est-à-dire un commentaire. Et il y a plusieurs types de commentaires. Un type de commentaire, c'est le commentaire hadokt, que l'Avesta connaît lui-même, puisqu'il qualifie certains textes de hadaukta, texte complémentaire ou texte de commentaire. Or, c'est véritablement un texte de commentaire. Ça n'apparaît pas à première vue, mais ce texte qui s'appelle le hadokt nask, est en réalité un commentaire de la strophe gathique 43.1. Il nous explique par une petite histoire, quels sont les pouvoirs magiques, religieux, de la strophe gathique 43.1. Or, l'histoire qu'il raconte, vous la connaissez bien, c'est le destin de l'âme. D'abord, trois nuits d'isolement, d'impuissance, l'âme reste auprès du corps. Mais il récite le yasna 43.1. Et c'est cette récitation qui va déclencher les événements après trois jours et trois nuits, où l'âme du défunt masculine va rencontrer sa daïna. C'est un mot dont nous parlons et dont nous allons véritablement devoir nous occuper aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine. Il s'agit donc de deux âmes. L'une est masculine et elle est incapable de bouger. La seconde est féminine et elle est douée de mobilité. Et la rencontre de ces deux âmes qui se produit à l'aurore, c'est à l'aurore que la Daïna apparaît à l'Urvan, va guider, semble-t-il, d'une certaine façon, l'âme vers le paradis. C'est sur cet accès de l'âme au paradis que le texte du Hadoknask est le moins explicite. Alors, en quoi consiste cette rencontre ? Est-ce une sorte de réunion de l'individu avec lui-même, sous la forme de la réunion de ces deux âmes ? On peut gloser, c'est une, C'est une chose que nous avons faite il y a très longtemps ensemble. Donc, peut-être n'y a-t-il plus de survivants parmi vous de cette époque. Mais je voudrais insister sur ce petit détail-ci, c'est que la rencontre est très probablement matrimoniale. L'Orvan est masculin, la Daïna est féminine, elle surgit à l'aurore, et il y a un glissement extrêmement discret, comme toujours dans la littérature avestique, qui fait que l'âme est une jeune fille, une kanya, kainya, peu importe le mot, c'est-à-dire une jeune fille célibataire. Et dès que l'âme masculine lui adresse la parole, il l'appellera Charaïti. Différence, c'est que la Charaïti peut être célibataire, certes, mais elle est nubile. Et alors, le passage d'une appellation à l'autre, vous me direz, c'est ténu, c'est peut-être faire beaucoup d'illusions, mais j'y avais reconnu, j'avais proposé d'y reconnaître une indication de la nature matrimoniale de la rencontre, comme si la mort, je l'ai écrit, était un mariage avec soi-même. Il y a une variante à ce récit, c'est le Videvdat 19, où la Daïna apparaît, mais elle apparaît d'une autre manière, elle apparaît aussi à l'aube. D'ailleurs, elle jaillit comme l'aube de la montagne du cou de Levant, la Hara Barzaïti, et elle est accompagnée de deux chiens, et elle emprunte un chemin avec l'âme du défunt. Ici, le thème du chemin est beaucoup plus clair, et le rôle de la Daïna en tant que psychopompe est véritablement explicite. Mais il n'y a pas de détails matrimoniaux. Donc, voilà, l'eschatologie individuelle, c'est ça. C'est pas si le défunt mérite le paradis, sa Daïna est belle, elle le conduira au paradis. S'il a été mauvais, ben, c'est l'inverse, c'est une infecte vieillarde qui va le conduire vers l'enfer. On s'est un peu trop, d'ailleurs, obsédé du caractère beau ou laid de la Daïna, parce qu'on y voyait une sorte de reflet des qualités morales du défunt, alors que ce n'est peut-être pas tellement ça qui se joue, comme vous allez le voir. Voilà donc pour l'eschatologie individuelle. L'eschatologie collective, bien, c'est... Nous ne savons pas où la trouver. Je vous dis, Bartholomée l'a trouvée dans les Gathas par une série de coups de force lexicaux. Quatre termes qui auraient signifié quelque chose comme dans la politique, comme dans l'apocalyptique, pardon, juive ou chrétienne, comme le retournement des choses, le grand moment, le grand tournant, le moment de la fin, le jugement dernier, etc. Toutes sortes de termes se rapportant donc à un jugement final et à la fin des temps. Comme je vous l'avais exposé dans l'introduction, ce vocabulaire-là a été anéanti par Humbart, qui lui a rendu sa véritable teinture indo-iranienne. Dès lors, l'eschatologie collective est introuvable dans les Gathas. Nous allons essayer de la retrouver, mais vous allez voir que nous ne la trouverons pas. Je vous demande d'attendre, je vous expliquerai pourquoi, les textes à l'appui. Mais, en tout cas, cette mise à l'arrière-plan de l'eschatologie collective pour l'époque vieille avestique a entraîné le contraste entre deux positions extrêmes sur cette idée de la fin du monde dans le mazdéisme. La solution, l'un des pôles de ce contraste, Mary Boyce, pensait que, malgré l'intervention de Humbart, l'eschatologie collective était une invention vieille avestique. C'était une donnée de base de la doctrine zoroastrienne, l'invention de Zoroastre lui-même. Donc, se trouvait bien entendu inscrite dans les Gathas. Comment la retrouver si le vocabulaire nous fait défaut? Eh bien, ce n'est pas un hasard si Mary Boyce est restée toute sa vie, jusqu'à sa mort il y a seulement quelques années, profondément bartholoméenne dans sa compréhension des Gathas. Elle n'a jamais, je pense, véritablement assimilé la révolution copernicienne de Humbart. Gignoux, par contre, mon collègue Philippe Gignoux, que vous connaissez sans doute, lui représentait l'opinion exactement opposée. Il pensait que cette idée de fin des temps, d'apocalypse mazdéenne, était une pure influence judéo-chrétienne sur le mazdéisme, voire islamique, et donc que ça n'apparaissait que dans les livres Pehlevi. Nous ne pouvons pas donner a priori raison à Boyce, mais Gignoux avait tort. Gignoux avait tort, cela est apparu dans le courant des années 1990, ou, situation étrange pour nos études, le Yasht 19, c'est-à-dire un de ces Yasht odieux qui compose la liturgie brève. Le Yasht 19 fait coup sur coup, dans ces années-là, l'objet de trois interprétations extrêmement différentes. 92, Éric Pirard, produit édition, traduction et commentaire du Yasht 19. 2 ans plus tard, 94, Almuth Hinz, de même. Quatre ans plus tard, 98, Helmut Humbach, produit aussi une édition du Yasht 19. Ce qui m'a incité, l'année même, avant la parution de Humbach, je disposais de son manuscrit, à consacrer au Yasht 19 et aux problèmes qu'il posait un cours ici au Collège de France. Or, il est très clair, il est étrange que l'on perde des choses aussi évidentes de vue, que la doctrine de la fin des temps fait l'objet même du Yasht 19, un texte avestique récent, donc composé un siècle ou deux avant l'Empire achéménide. Nous sommes loin de l'époque où il y avait des chrétiens et des musulmans. Ce n'est donc pas une influence d'une religion extérieure qui serait produite durant notre ère. On raconte très bien, n'est-ce pas, le Yasht 19, c'est sa structure même, c'est l'histoire du monde. Et c'est un témoin de l'existence à l'époque avestique, sans aucun doute, de ce que nous appelons la doctrine des millénaires. Je vous la résume rapidement, durant 3000 ans, le monde n'existe qu'à l'état de pensée, qu'à l'état mental. Durant 3000 ans encore, le monde reçoit son existence matérielle, mais il reste immobile. Il est figé, il est fixe, il s'y passe rien. 3000 ans de plus, on arrive à 9000, le monde se met en mouvement. Je n'entre pas dans les détails. Puis, pour la dernière tranche de 3000 ans, celle dans laquelle, en principe, nous sommes, le monde est bien entendu matériel et en mouvement, mais Zarathoustra y a amené la religion mazdéenne. Et après ce dernier cycle de 3000 ans, un fils posthume de Zarathoustra, qui s'appelle Zaoshiant, mettra fin au règne aux empiétements du mal, plus exactement, dans le monde, chassera les démons et le mauvais esprit définitivement, et les morts ressusciteront. Telle est la doctrine clairement inscrite dans le Yasht 19. Alors, il nous faudra vérifier si quelque chose de ressemblant se trouve dans l'Avesta ancien. La quête est désespérée, je ne vous le cache pas à l'avance. Je ne vous le cache pas. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer par vérifier dans les gathas l'existence de l'eschatologie individuelle. Est-ce que les gathas font parfois des références claires au destin de l'âme des morts? Il y en a quatre. Une fois encore, ce n'est pas surprenant. Si l'on met à part, bien sûr, je sais, il y a 5 gathas, mais les 2 dernières sont un peu particulières. Une fois dans chaque gatha, c'est pas hasard, ça relève d'un certain nombre de conventions. Alors, si vous voulez bien, je vais vous montrer ces passages avec la traduction. Premier passage, première gatha, Yasna 31-20, donc très longtemps avant... le moment sacrificiel dont nous avons parlé. Je vous donne le texte original. Il est tronqué. Je vous donne simplement ce qui concerne l'arrivée en enfer. Donc ça concerne bien entendu quelqu'un qui commet une mauvaise action. On va dire quelqu'un qui n'est pas chavan. Eh bien celui-là, son lot final, ce sera les lamentations. Kshio. Daregemayu temanko, la longue durée de ténèbres. Dushkwarte, la mauvaise nourriture. Awaitas vacho, l'expression hélas. Et la conclusion en est tirée par le dernier vers, c'est à cet état-là, trompeur, Drogvant, partisan de la Drouche, que votre daïna, ben voilà notre mot daïna, hein, cette faculté mentale qui est la daïna, joue son rôle dans l'accession d'une âme au paradis ou à l'enfer. C'est à cet état que votre daïna vous conduira à cause de vos propres actes. Yasna 46.11, deuxième gatha. Le texte que vous trouvez ici est intégré d'une certaine manière à l'énumération des noms propres qui a lieu dans chaque gatha. Elle le précède, toujours. C'est une sorte de tradition que, avant que l'on cite, mentionne des personnages qui sont considérés évidemment comme les protagonistes véritablement du rituel gathique, on fait allusion à des mauvais. Or, ces mauvais, leur appellation, il y en a deux catégories, parfois trois, ici il y en a deux, ce sont les Karpanes. Ce ne sont pas qui sont les Karpanes. Il n'y a pas d'étymologie assurée de ce mot. On ne peut pas faire une étymologie indo-iranienne. Le A est une voyelle d'appui. Il faut comprendre Karpanes. La métrique est très claire. Le mot Karapano que nous avons ici comporte trois syllabes. Et puis il y a les Kavi. Kavi, ça c'est un mot que nous connaissons bien, qui pose d'ailleurs des problèmes que nous commenterons plus tard. Mais Kavi, c'est aussi des personnages réprouvés. C'est le sanskrit Kavi. Or, le Kavi, dans le monde du Rig Veda, c'est le nom même du poète. Le nom même du poète. Donc, Karpanes et Kavi. Eh bien, eux, voilà la proposition relative qu'on leur attribue, que leur propre Urvan, voilà le nom de l'âme masculine, leur propre Urvan, et leur propre Daïna, réunion des deux âmes dans ce passage gathique aussi, mettra en colère. Cette idée que le mauvais devant le paradis se met en colère va revenir deux fois, comme vous le verrez. Lorsqu'ils arrivent là où se trouve le pont du maçon, pour toute l'éternité, pour toute la durée, hein, ils seront des hôtes dans la maison de la tromperie. Ceci nous apprend un certain nombre de choses. L'accession au paradis, c'est bel et bien un chemin. Aïbikmen, quand ils arrivent, il faut se déplacer pour arriver au paradis ou à l'enfer. Et semble-t-il, il y a un obstacle particulier, et particulièrement important sur la route du paradis, c'est ce que j'ai traduit, comme nous l'avons fait Éric Pirard et moi, par le pont du maçon. Je m'explique. Pertou, c'est évidemment quelque chose qui vous permet de traverser une rivière. Pertou. C'est le pont. Chinvato, c'est un génitif singulier. Un génitif singulier, c'est le génitif singulier d'un participe présent. Chinwant. Chinwant. On élucide facilement le thème de présent. C'est un présent dit à un fixe nasal, racine chi et chinoti. On a bien sûr essayé d'interpréter chinvant par, contextuellement, puisqu'il s'agit d'un endroit où se produit, au fond, un jugement, un tri entre ceux qui auront paradis et ceux qui vont en enfer. On a voulu y voir quelque chose qui signifiait trier, etc. Mais les choses ne portent pas nécessairement le nom de la fonction. Pourquoi elles sont faites, n'est-ce pas? Ça, c'est une règle générale, ça ne nous assure pas. En fait, si nous en remettons au sens de base du verbe chichinuti du sanskrit, c'est faire un tas, c'est mettre des choses les unes sur les autres. Vous voyez ce que cela veut dire, ce pont, c'est un pont qui relève de la technique la plus élémentaire pour faire un guet. Mettre les pierres les unes sur les autres dans le cours de la rivière, afin de pouvoir la traverser, bien entendu. Ça me paraît assez élémentaire et je ne vois pas pourquoi ce pont doit nécessairement faire référence à sa fonction de tri des hôtes du paradis et des hôtes de l'enfer. Donc il y a un endroit, un obstacle particulier, où il y aura dans la littérature ultérieure beaucoup de descriptions colorées, n'est-ce pas, de ce pont qui devient un véritable viaduc pour les bons, alors qu'il se transforme en lame de rasoir pour les méchants, etc. Mais ça relève de la coloration ultérieure. Donc ça, c'est le première chose que nous apprenons. On accède à l'au-delà par un chemin, et sur ce chemin, un obstacle particulier qui est le pont. Deuxième chose que nous apprenons, c'est le nom de l'enfer. Drujo de Mana. Drujo de Mana, que nous trouvons ici au locatif singulier. Donc, l'enfer, c'est la maison de la Druj. La maison de la Druj. La maison de la tromperie. Bon, vous voyez, on peut tirer des éléments. Et chaque gatha fait bel et bien, chaque gatha à son tour, une allusion à ce qui arrive aux âmes des défunts. Alors, remarquez que le Yasna 53 répète relativement bien le motif. Nous retrouvons le pont, nous retrouvons l'idée de la colère du défunt damné, et nous retrouvons aussi, cette fois-ci, le motif ici véritablement clair, véritablement explicite du chemin, mais de celui que cette âme a raté. Donc celui dont la daïna du trompeur, c'est ce qui est compris d'après la strophe précédente, la daïna du trompeur que l'Urvan met en colère devant le pont du maçon à cause de ses actes, des paroles de sa langue, il a perdu le chemin de l'agencement. Donc le bon chemin, celui d'achat, il l'a raté, il ne l'a pas repéré, il ne l'a pas vu, ou il l'a quitté, hein, ou il l'a quitté. Ce qui, là, la nuance n'est pas faite. Alors, je n'ai pas proposé de traduction, je n'ai pas proposé de traduction pour le Yasna 49, 10 et 11, parce que ce sont les mêmes motifs qui reviennent, et nous apprendrons plus grand-chose, sauf une petite chose quand même que je vous ferai remarquer. N'est-ce pas ? C'est 49-11. Je commence par la dernière de ces strophes. Voilà la traduction. « Mais au trompeur, au mauvais pouvoir, au mauvais acte, aux mauvaises paroles, à la mauvaise daïna, le daïna est là, à la mauvaise pensée, le rourvan, âme masculine, elle est là aussi, fait tribut de mauvaise nourriture, qu'il soit dans la maison de la tromperie, des hôtes éternels. » Bien, ceci ne nous a pas appris nécessairement grand-chose sur de nouveau, mais c'est intéressant parce que la strophe précédente, c'est la seule de tout le corpus gathique qui fait allusion au destin de ceux qui gagnent le paradis. Remarquez le bien, jusque-là, chaque fois, il est question des damnés, hein, de ceux qui vont en enfer. Jamais une description pareille ne nous est faite pour ceux qui gagnent le paradis. La seule allusion du corpus gathique, c'est dans la strophe 49-10. Strophe 49-10, dont vous avez la traduction, vous verrez combien, cette fois-ci, en parlant des bienheureux, on sera beaucoup plus abstrait dans l'expression. « Voici ce que tu abrites dans ta demeure, ô Mazda, la divine pensée, l'être, l'Urvan. » Quand j'ai traduit « Urvan », je l'ai traduit par « être ».« L'Urvan, des partisans de l'agencement, et l'hommage avec lequel, Nemas, hein, se trouve la juste pensée et la libation. Hommage charmeur qui confère le pouvoir et qui vous attire ici. Ce qui est clair dans ceci, ça nous apprend quelques petites choses, tout de même, cette strophe. D'abord, c'est que c'est le nom du paradis. C'est le nom du paradis. Le paradis, ce n'est pas comme on peut. Pour les gathas, toutefois, ce n'est pas comme dans l'Avesta récent. Le garo de Mana, le garo de Mana, garo Nmana dans l'Avestique récent, n'est pas cela. Et dans une adaptation des livres pelviques et Garotman, ça c'est le paradis, c'est la dénomination avestique récente et moyen perse du paradis. L'expression est attestée en vieil avestique, sous la graphie usuelle, garo de Mana. Mais le garo de Mana, c'est une désignation de l'ère sacrificielle. C'est la maison du champ de bienvenue. C'est la maison, l'ère sacrificielle comparée à une maison où l'on accueille les dieux. Ce n'est pas le paradis en vieil avestique, non. Le paradis, ben, il est ici. Vous voyez comment on l'appelle. Ta maison, au Mazda. Le paradis, vieil avestique, c'est la maison d'Ahura Mazda. Il y a donc la mise en opposition entre le paradis, maison d'Ahura Mazda, et l'enfer, maison de la Druj. C'est cela que nous apprenons. Alors nous apprenons autre chose qui est là et d'ordre véritablement conceptuel. c'est que ce ne sont pas des qualités morales, des qualités éthiques qui valent le paradis ou l'enfer. Remarquez bien ce que Mazda accueille dans sa maison, ce qu'il retient. C'est bien sûr l'âme, c'est bien sûr l'âme de ceux qui font bien les choses. Mais c'est une âme singulièrement entourée par ses qualités rituelles, avant tout, par ses offrandes. Le namas, dont nous avons vu le lien évident, le nemar vestique, namas indien, dont nous avons vu le lien évident avec le sacrifice sanglant. Hein. Donc, c'est avec l'hommage fait avec la juste pensée et la libation, ce mot ida, ce sont ces qualités rituelles qui valent le paradis à celui qui... à celui qui le mérite. Alors, si vous voulez bien, est-ce qu'il y a ici, je vous fais remarquer que la mort est un processus où interviennent deux forces mentales, comme dans le Hado Knask. Mais les choses sont moins romancées. Il n'y a pas ici de petite anecdote qui nous décrit le rapport hein, entre l'Urvan et la Daina, comment se fait leur rencontre, quel est le rapport de l'un à l'autre. Non. Mais pourtant, il y a un tout petit détail ténu. Mais vous savez que nous sommes, il faut être très attentif. Essayez de bien voir ce qu'il y a derrière les mots. Nous ne faisons que ça depuis le début de l'année. C'est la première attestation, celle du Yasna 31-20. J'en profite pour vous dire, faites attention sur la traduction, il y a une petite erreur. C'est à cet état, ô trompeur, que la Daina vous conduira. Hein, pas nous conduira, vous conduira. Nous y sommes quasi, nous conduira, vous conduira, pardon, vous conduira. Le verbe qui signifie, c'est un verbe ici véritablement un futur, nous sommes au niveau bien sûr de la réalité future, c'est le verbe naïchat, c'est un subjonctif aoriste, on le dit ainsi, c'est-à-dire la catégorie verbale qui exprime, une des deux catégories verbales qui exprime le futur, et c'est le verbe ni, conduire. Conduire. Ça a l'air insignifiant, ça ne l'est pas. Parce que le verbe conduire, c'est aussi le verbe épouser. C'est le verbe épouser parce que épouser une femme, dans la conception peut-être même indo-européenne des choses, mais en tout cas indo-iranienne, c'est la conduire. C'est-à-dire, dans l'optique d'une société traditionnelle, la conduire de sa maison, la maison de sa famille, à la maison de sa nouvelle famille, hein, celle du mari. Ah oui, mais remarquez le retournement des choses. Ça non plus, ce n'est pas indifférent. Ici, c'est la femme qui conduit. C'est la femme. Dans le déménagement, en quelque sorte, qu'est la mort, c'est la daïna qui conduit. C'est donc l'âme féminine qui conduit l'âme masculine. C'est le seul détail que, disons, potentiellement matrimonial, que les gathas vont nous confier sur le rapport entre les deux âmes. Bien, alors nous allons laisser ce document et nous allons... y a-t-il autre chose? Nous allons nous préoccuper d'autre chose, parce que pour dépasser cette image tout de même, bon, elle est là, elle est explicite, il y a un paradis, un enfer individuel. Mais il ne fait pas l'objet d'une obsession. Une brève allusion est presque essentiellement consacrée aux méchants dans chaque gatha. Il faut dépasser cette image-là pour bien se faire une idée raisonnable de l'eschatologie vieille avestique. Cela, il faut dépasser l'image du destin des damnés. Il faudra préciser aussi les vocations du destin des bienheureux. Et pour cela, il faut s'attacher à découvrir l'eschatologie dans l'examen du mécanisme qui conduit à la récompense sacrificielle. Alors, vous savez, nous avons suffisamment sollicité ce texte-là. On vous a remis un document, je pense, on va le projeter. Nous n'en aurons probablement pas fini avec lui aujourd'hui. Je vous demanderai de bien vouloir le conserver si c'est nécessaire, en tout cas pour la semaine prochaine, l'amener avec vous du moins. Ici aussi, une fois dans chaque gatha apparaît le même motif. Nous l'avons rencontré, nous l'avons commenté, nous l'avons rencontré dans la première gatha, la gatha Arunavaiti. Elle se déploie sur trois strophes. Dernier vers de la strophe 12, l'entièreté de la strophe 13, et puis le début de la strophe 14. Donc le sacrifice sanglant que nous avons voulu restituer est terminé. La Haïti et la Gatha s'achèvent, et elles s'achèvent sur ceci. Regardons ensemble le texte. Hein. Enseigne-nous par l'agencement, par la Mazda, les chemins faciles de la bonne pensée. Ils sont de bon chemin, on marche facilement. Enseigne-moi le chemin dont tu me dis, ô Ahura, qu'il est celui de la bonne pensée. C'est un chemin bien tracé, au long duquel les Dainas des Saushyant cheminent, le verbe cheminer, Urvachat, selon l'agencement vers le Mijda, ô Mazda, que vous avez accordé aux généreux et dont tu es le donateur. À dessein, je n'ai pas traduit trois termes. Je n'ai pas traduit Daina, nous en parlions assez pour que je le fasse, bien sûr, mais je préfère laisser le mot bien serti dans le texte. Les Saushyant, voici le nouveau eschatologie collective que je viens de résumer, lui donne un rôle, et puis le Mijda que nous connaissons bien, en dépit de tout ça, je ne l'ai pas traduit. Donc, ici, il y a quatre mots qui figurent quatre motifs qui s'assemblent de manière pour composer une sorte de vaste métaphore de ce qui se produit à la fin du sacrifice. Excusez-moi, je voudrais dire que ce qui se passe, n'est-ce pas, c'est que... Il y a un chemin. Il y a un chemin qui est. Je fais un peu de place. Pat, indien. Pat, c'est quasi de l'anglais, hein. On en a deux européens tout de même. Ou bien son synonyme, Advan, indien Advan. Là, je l'ai traduit sans problème parce que c'est un terme qui exprime quelque chose de concret. Et sur ce chemin vont, voyagent, la Daina. Daina qui appartient à quelqu'un que l'on désigne par le terme Saushyant. Et l'objet du cheminement, l'objet du voyage au long de ce chemin, c'est le Mijda. Voilà les quatre éléments qui composent le tableau, qui composent le processus. Quatre termes techniques, un chemin, la Daina, le Saushyant, le Mijda. Alors, nous allons reprendre ces termes, si vous le voulez bien, un à un pour... voir le sens que nous devons leur donner. Mijda, c'est l'indien Milha. Traduisons usuellement, je préfère toujours donner le sens de base et le manipuler ensuite si nous voyons que c'est nécessaire, mais très souvent, ça n'est pas nécessaire. Milha, le prix de victoire, c'est un terme indo-iranien bien connu. Alors, nous avons établi il y a 2 ans la conception que les théologiens de l'Avesta récent se faisaient du mécanisme de la réussite sacrificielle. Nous avons les bribes de cela dans les intercalations du Visprat, passage du Visprat intercalé entre les diverses haïtigatiques, les diverses gathas surtout, et nous avons pu dégager le mécanisme de la réussite sacrificielle. Il est censé, selon les théologiens de l'Avesta récent, se produire pendant la récitation du Yasna 51, la répétition du Yasna Aptankaiti après le Yasna 51, puis la dernière gatha, le Yasna 53. En réalité, le processus, c'est que le sacrifice produit un surcroît de kshatra, pour le monde du bien. le kshatra, le pouvoir d'Ahura Mazda, d'une part, du dieu, d'une part, d'autre part, le pouvoir du sacrifiant devient plus fort et déséquilibre le jeu des pouvoirs. Le pouvoir du mal devient impuissant. Ces surcroît de bons pouvoirs provoquent, comme le dit explicitement le Visprat, provoque le Vrtrakna, c'est-à-dire l'effondrement de l'obstacle. L'adversaire s'effondre. Il y a effondrement de l'obstacle. Et l'effondrement de l'obstacle permet de gagner le Mijda, le prix de victoire. Qu'est-ce que le prix de victoire ? En quoi consiste-t-il ? Pour l'Avesta récent, nous le savons. Nous avons un autre commentaire, là aussi un fragment avestique, on l'appelle du nom de celui qui l'a trouvé, Vestergaard, fragment Vestergaard, mais qui est un commentaire non plus hadokt, mais nous le voyons, le commentaire, un autre type de commentaire, ce que les moyens perses appellent Vashtmansr. C'est un commentaire qui consiste à donner d'autres types d'explications que le hadokta. Eh bien, ce petit fragment que nous avons, on le dit de manière tout à fait explicite, c'est la résurrection des morts. C'est la résurrection des morts. Alors, vous voyez ce que ceci inspire. Bien sûr, le processus sacrificiel de l'avestique récent, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la doctrine des millénaires. C'est pas, bien sûr, cette réussite sacrificielle, elle est symboliquement obtenue lors de chaque sacrifice particulier successif. Mais c'est symbolique. La réalité matérielle des faits, ce sera lors du dernier sacrifice, pas lorsque le dernier sacrifiant y accédera. Et le dernier sacrifiant s'appelle Saushyant. Il est Saushyant et il est le fils posthume de Zarathoustra. Ce sera l'ultime sacrifiant. Lui va passer par ce processus. Il va, de manière décisive, alourdir le bon pouvoir. Il va provoquer l'effondrement de l'obstacle et il va gagner le Mijda ultime, qui est la résurrection des morts. C'est donc un processus historique. Dans les Gathas, nous verrons, il n'y a pas de cela. Il n'y a pas cela. Mais voilà ce qui ici est en jeu. Je voudrais aussi tout de même montrer la différence. C'est que de toute évidence, quelque chose est à l'arrière-plan déjà dans les Gathas. Quelque chose est à l'arrière-plan. Que le Kshatra joue à ce point de vue un rôle essentiel, comme la notion de Mijda, à coup sûr. Mais ceci, le Vrtrakna, nous ne le constatons nulle part. Le mot Vrtrakna n'est pas attesté dans les Gathas. L'adjectif qui lui correspond, celui qui brise l'obstacle, Vrtrajan, est attesté une fois, et ce n'est pas en rapport précis avec le mécanisme final du sacrifice. Donc, il semble que nous n'ayons qu'un rapport de deux éléments. Le kshatra, le pouvoir, et le prix de victoire, d'autre part. Je vais d'ailleurs vous faire part d'une observation qu'il est difficile d'interpréter, mais qui montre bien que dans tout un processus gathique, je pense, il y a un rapport direct entre le poids du pouvoir et d'autre part l'accession au prix de victoire. Mais avant cela, je voudrais donc faire remarquer que l'élément effondrement de l'obstacle manque. Alors qu'est-ce que je peux faire remarquer ? Bien, cela concerne deux gathas sur les cinq. La première et l'ensemble composé par les deux dernières. Et l'ensemble composé par les deux dernières, il est très clair d'après le commentaire, d'après les passages du Visprat, que l'Yasna 51 et l'Yasna 53 ont été placés pour produire cet effet-là. La gatha est homogène, la première. Voici comment les choses se passent. Nous soupçonnons que la première strophe de la première gatha, ce n'est pas le Yasna 28.1, mais c'est la Hunavairia. C'est-à-dire la strophe qui est aujourd'hui traitée comme une formule séparée qui occupe le Yasna 27.13. C'est la formule de la Hunavairia. Or, indépendamment de toute interprétation, de toute exégèse de ce texte difficile, et Dieu sait s'il y en a eu, je vous ferai remarquer ceci. C'est qu'il y a dans deux éléments qui ont pour caractéristique d'être vairio, c'est-à-dire devant être choisi, littéralement. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Un mot difficile, le ratouche. Vairio, d'ailleurs, s'accorde avec lui, nominatif singulier masculin. Le ratou, je vous donne mon interprétation, c'est le cursus temporel de la cérémonie, donc le cursus sacrificiel. Il y en a un qui doit être choisi. Mais ratouche est coordonné à un autre mot. En réalité, le vairio, quoi qu'il accord avec le plus rapproché, bien sûr, mais il porte sur deux termes. Et ce mot, c'est kshatroncha. Première strophe affirme le caractère vairia du processus temporel du sacrifice et du pouvoir de ce sacrifice. L'un et l'autre doivent être choisis. À la fin de la gatha, c'est la première strophe, à la fin de la gatha, revenons au texte, regardez la strophe conclusive du thème du chemin, Yasna 34-14, Tadzi Mazda Vairim. Il faut comprendre Mijda, il est repris à la strophe qui précède. C'est le Mijda, le prix de victoire, qui devient, au bout du processus, Vairia. Première strophe, c'est le bon pouvoir qui est désirable, qui doit être choisi. Dernière strophe, à l'issue du processus sacrificiel, c'est le prix de victoire obtenu qui devient enviable, devant être choisi. Il faut maintenant remarquer que l'ensemble 51-53, permettez. La gatha s'appelle de son premier mot, Vohu Kshatra. Le kshatra, c'est le deuxième mot de la gatha, le premier c'est vohu, c'est bon. Vous ne l'avez pas sur vos documents, je vous donne ici, c'est une remarque annexe. Vohu kshatram, le pouvoir est bon, et il est vairim. Vairim, à l'accusatif singulier, ou au nominatif singulier neutre, c'est ce mot-là. Le kshatra, comme dans la Huna Vairia, première strophe du Yasna 51, et devant être choisi, à choisir, enviable. Puis la gatha se termine par sa formule, le corpus gatique, pardon, tout le corpus gatique après le Yasna 53, la formule conclusive du Yasna 54.1, elle figure en dernier lieu sur le document qui vous a été distribué, c'est la toute dernière phrase, bien la voilà, la daïna qui gagne le mijda enviable. Deux ensembles gathiques passent d'une première strophe qui exalte le caractère enviable du bon pouvoir et se termine par la constatation que ce caractère enviable a imprégné le prix de victoire, Vairia. C'est un élément formel dont on ne peut peut-être pas tirer de choses, mais très certainement, ça fait partie, je dirais, de l'organisation qui nous permet de voir à l'œuvre la réalité d'un processus sacrificiel. Prenez-le surtout comme ça. Nous n'allons pas entrer dans les détails, je ne sais pas qu'en faire, hein. Je ne sais pas très bien quoi en faire d'autre. Mais je veux dire, nous sommes loin du système des sermons, hein, très certainement. Alors, il y a d'autres termes, n'est-ce pas, qui nous demandent une petite réflexion. Je vais revenir tout de même au terme d'Aïna. Je vous avais confié lors des cours de l'an dernier que j'étais devenu sceptique. Il m'avait semblé saisir plus ou moins, de manière plus ou moins approximative, ce que pouvait représenter la notion. Et j'avais perdu un peu de confiance dans ce que nous pensions l'an dernier. Je voudrais voir qu'il y a évidemment une alternative. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'avais été ébranlé. J'étais en réalité ébranlé par Éric Pirard. C'est-à-dire qu'il y a deux explications possibles pour le mot d'Aïna. Avec le mot d'Aïna, au contraire de Mijda, nous ne sommes pas dans la terminologie indo-iranienne usuelle. Il n'y a pas de terme apparenté en indien. Il pourrait y en avoir un. C'est le mot dena. Mais nous ne savons pas très bien. Ce n'est pas un mot fréquent dans l'hymnaire du Rig Veda, le mot dena. Ça a un rapport avec le lait abondant que produisent les vaches. C'est le lait aussi transfiguré dans le culte. Bon, c'est pas saisir le sens exact n'est pas simple. Mais ça correspond parfaitement, en apparence du moins. Les deux mots sont véritablement, daina, dena, ils sont homonymes, au moins, pour le moins. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est que le mot, nous avons la chance d'avoir un texte métrique, eh bien, le mot daina est trisyllabique. Il est trisyllabique. Daina comporte trois syllabes, pas deux. Celui-ci est véritablement trisyllabique. Il y a donc un élément de disparité. Il y a un élément qui nous oblige à faire la différence entre les deux mots. Et alors, on pense que l'on doit reconstruire Dayana. Les mots de ce type sont accentués sur la voyelle finale et ça semble réservé à la position préaccentuelle, mais dans une configuration telle que celle-ci, on va postuler de façon raisonnable que le A s'est affaibli et puis il y a une contraction complète, ce qui explique que dans le mot daina, nous ayons une diphtongue en réalité. J'ai douté de cette explication parce que j'avais trouvé des parallèles, c'est pas des parallèles qui semblaient rapprochés de façon, peut-être, façon supputative du moins, le mot daina de dena, entre autres la racine pi, le gonflement du lait d'une part, ben oui, la daina gonfle, littéralement, dans le videvdat, alors que le verbe pi pour gonfler est terriblement mal représenté dans l'Avesta. C'est un verbe très peu productif, nous ne trouvons pas fréquemment. Il y avait aussi cette curieuse allusion à la dena des nuits, aux ombres de la nuit, etc., qui faisait penser à peut-être au Radoknas, que je ne sais pas. Mais voilà, enfin, heureusement, ma période de scepticisme a pris fin. Je suis reconnaissant à Alberto Cantera, lors du colloque du mois de juin, sur Yima, de m'avoir rappelé à l'ordre et de m'avoir rappelé à moi-même, puisque c'est moi qui avais insisté sur ces trois aspects. Alors, je pense que Daina, c'est donc Dayana, c'est un dérivé du verbe voir, dit. C'est une capacité de vision, surnaturelle ou non, il faudra préciser ça. C'est donc la force de vision, capacité de voyance. Avec le mot voyance, on passe un peu dans surnaturel, c'est l'avantage. La Daina, elle partage trois caractéristiques un peu étonnante avec l'aurore védique. Le nom de l'aurore en avestique, nous l'avons, c'est Usha. Védique Ushas. Or, la Daina et l'Ushas védique ont trois éléments en commun. D'abord, c'est de produire une lumière. Lumière, c'est la moindre des choses, me direz-vous, oui, mais cette lumière est spécifique. Elle s'exprime en une racine qui est la racine chit, ce qui caractérise l'aurore l'ushas védique, c'est son ketu, son signal lumineux. Elle agit comme un ketu, un signal lumineux lorsqu'elle se dresse. Le mot ketu n'a pas d'équivalent en avestique. Curieusement, très curieusement, c'est un processus que linguistiquement je ne comprends pas bien, mais ketu est remplacé, case de ketu est occupée par un adjectif, l'adjectif chitra, il existe comme adjectif en sanskrit védique, c'est un adjectif substantifié, devenu un substantif, le chitra. Je vous rappelle le yasht. Le yasht qui est censé être celui de la daina, c'est le yasht 16, est en réalité dédié à une déesse qui porte un autre nom, mais qui est un autre nom de Daina. Et ce nom, c'est Chista. Chista. Chista est un dérivé de la racine Chit aussi. Donc le rapport entre la racine, la lumière exprimée par la racine Chit est commun aux deux motifs. Et puis, il y a le fait que et la Daina et l'aurore sont des montreuses de chemin. Les deux entités divines montrent aux hommes des chemins. Nous sommes dans le contexte du chemin, vous allez me dire, nous le sommes ici. Mais il y a des choses plus précises. Il y a des choses plus précises qu'il faut mentionner. Il y a un passage qui n'appartient pas, lui, au Gatha, qui est un passage du Yajna 10 à Mitra, qui nous dit que c'est pour Mitra que l'action fait cette... que la Daina fait cette action-là. Daina, nominatif singulier, pour bien aller, je vous rappelle le Kwaitunk que nous avons observé dans le Yasna 34-12, ben c'est l'équivalent avec une petite différence dérivationnelle. Kwite, pour qu'il l'aille bien. Pato, le nom du chemin, accusatif pluriel. Radaiti, le verbe rad, c'est baliser un chemin, c'est montrer où sont les limites du chemin pour qu'on ne le perde pas, pour que l'on ne quitte pas le chemin. Donc, pour Mitra, la Daina, afin qu'il l'aille facilement, balise les chemins. Elle balise les chemins. Rig Veda 5, 83. Au lieu de Daina, nous avons Devi, la déesse. C'est la déesse aurore, hein? C'est un hymne à l'aurore. Suvitaya. Excusez-moi, le A est bref, Suvitaya. Là, c'est réellement l'équivalent de Kwaitung, de Kwaita, que nous avons dans le texte gathique. Pour qu'il l'aille bien. Pato. Accusatif pluriel. Radati. Elle lui balise un chemin. Il y a une petite différence de construction, c'est que le A est bref, on avait dit qu'il est long en avestique, je ne sais pas pourquoi, c'est l'avestique qui est irrégulier en principe. Donc là, il y a une différence réelle, mais elle n'intervient pas sur le sens. Donc voilà véritablement un parallèle complet. Hein. C'est un parallèle complet. L'aurore, la déesse aurore, qui balise un chemin pour, des chemins pour Mitra. La même chose pour la déesse aurore, non, c'est pas pour, excusez-moi, je confonds, c'est bien sûr la Daina du Yajna 10 qui balise un chemin pour Mitra, ce que dans le Rig Veda, l'aurore fait pour les hommes. Voilà, la deuxième caractéristique, il y en a une troisième que j'avais alléguée, c'est l'érotisme. La déesse aurore du Rig Veda est une déesse érotique. Bien entendu, c'est une allusion aux jolies couleurs de l'aurore, bien sûr. Mais les images sont franchement sexuelles. C'est une belle jeune femme, hein, qui se lave devant tous, qui exhibe ses seins, ses poils pubiens. Les choses sont dites aussi crûment dans les hymnes du Rig Veda. Vous allez me dire, on ne trouve pas tout cela dans le Hadoknask, par exemple, même si l'aurore est une belle femme, même si, pardon, la Daina est une jolie fille. Donc. Non, ce trait bien fortement atténué d'érotisme que nous avons, c'est tout de même le lien matrimonial. C'est le lien matrimonial. Mais nous allons voir mieux. Nous allons voir mieux dans les gathas. Donc, il y a là aussi quelque chose qui, bien sûr, qui semble rapprocher les deux réalités. Donc, en tout cas, retenons cela pour l'instant. C'est une capacité de vision qui permet de suivre un chemin. Alors, j'en viens au dernier mot, c'est le Saushyant. Là aussi, mais il y a déjà plusieurs années, 5-6 ans peut-être. Nous avions tenté dans l'Avesta récent, je vous avais dit que le motif de Saoxiant en vieille avestique n'est pas clair, on va essayer de l'éclaircir, mais dans l'Avesta récent, ça paraît assez clair. Il y a des gens qui sont par leur fonction sociale, par leur catégorie sociale des prêtres. Ces prêtres s'appellent Atravan. Avec une longue initiale qui est empruntée au nom du feu, il s'agit de l'équivalent de ce qu'on appelle dans le Rig Veda l'Atharvan. Ça, c'est celui qui, sa place dans la société, c'est être prêtre, sa désignation du prêtre de ce point de vue-là. Dès le moment où il participe à un sacrifice, il devient, de façon générale, je ne sais pas, mais il se répartit entre les diverses fonctions qu'il faut exercer dans une cérémonie, et nous connaissons la principale de cette fonction, c'est le Zaotar, qui est le patron du sacrifice, le Hotar. Donc, ce n'est pas une fonction sociale, ici, on est passé à la fonction sacrificielle. Lorsque les prêtres vont se mettre à fonctionner, si je puis dire, ils vont répartir entre eux diverses fonctions. Voilà, on voit là une. Voilà la principale. Je ne vais pas entrer dans le détail des autres. Ce n'est pas ce qui nous retient ici. Et, curieusement, dans l'Avesta récent, lorsque le Hauma a été préparé, lorsque le prêtre, le Zaotar, a récité le Fravarane, c'est-à-dire la déclaration de choix rituel, lorsque, à la fin du Yasna 12, le Yasna 12, c'est le Fravarane, mais sa dernière strophe, c'est la constitution de la Daïna. Après avoir fait le choix rituel à la fin du Yasna 12, le Zaotar se dote d'une Daïna. C'est le texte dit Astouye, une simple formule, une phrase. Donc, il est pourvu d'une Daïna. Et à ce moment-là, les membres du collège sacerdotal deviennent autre chose, ils deviennent des Saoxiant. Fonction sociale, fonction sacrificielle, ici je dirais fonction sacrée. Et l'ultime sacrifiant, ce sera sa qualité, superlative, il est le Saoxiant par excellence qui accomplira le dernier sacrifice. Voilà la vision des choses que nous transmet l'Avesta récent. Dans le texte que nous possédons ici, c'est tout à fait autre chose. Nous allons voir qu'il en va un peu de manière différente. Il en va de manière différente pour des raisons que je vous ai exposées la dernière, déjà précédemment d'ailleurs, parce que nous n'avons pas de trace d'une désignation du prêtre dans sa fonction sociale dans les gathas, ce qui nous a fait dire que les gathas étaient pré-atharvaniques, comme le Rig Veda est pré-brahmanique. Pas de brahman dans le Rig Veda, sauf exception de textes tardifs. Donc les prêtres ne sont pas encore une catégorie sociale répertoriée. Par contre, il y a un Zaotar dans les gathas. Cette fonction sacrificielle, au moins celle-là, les autres je ne sais pas, mais celle-là, elle est commune à toutes les strates, hein, Rig Veda, Hotar, Zaotar dans les gathas, Zaotar dans l'Avesta récent. Et alors nous avons le mot Saoxiant. Bon. Comme tel, il n'a pas d'équivalent non plus dans le Rig Veda. Mais c'est un mot dont nous pourrons établir l'origine indo-iranienne. Ce n'est pas, je vais vous le donner pour terminer cette conférence aujourd'hui. C'est évidemment, il faut partir d'une racine verbale qui est sous et dont le sens très matériel de base signifie gonfler. Alors, la force de gonflement, la force qui se traduit par un gonflement, c'est savar. Parfois, il y a une hétéroclysie, c'est un simple mot, c'est un mot fréquent dans les gathas, on connaît bien l'équivalent védique, shavas. Shavas. Il peut y avoir aussi un mot sous, un mot non racine, simplement, nous le verrons. Le mot donc sous. Et par ailleurs, donc le gonflement, et puis le verbe. Le verbe va produire un présent futur. Excusez-moi du paradoxe, mais l'expression du futur, à part le subjonctif aoriste, est obtenue par la formation d'un présent spécifique, c'est-à-dire caractérisé par son suffixe. C'est donc une conjugaison secondaire. Et les conjugaisons secondaires ont pour caractéristique de donner une visée particulière, le passif, le futur, etc. Hein? Donc il faut bien, pour être précis, je dois dire présent-futur. C'est la meilleure façon de savoir ce qu'on dit. Alors, le présent-futur de Su, c'est très régulièrement Saushia. Saushia. C'est-à-dire appelé, destiné à gonfler. Et le participe présent, c'est notre mot Saushiant. C'est littéralement celui qui va gonfler. Alors, il faut bien vous contenter de cela à la fin de cette heure. Je m'aperçois que le temps qui m'est imparti est terminé. Et de toute façon, dans la suite, nous allons essayer de préciser le rapport de ces trois mots en analysant les passages des autres gathas. Hein, celle des gathas où nous n'avons guère pénétré jusqu'ici, mais il y a aussi une attestation de la configuration dans chaque gatha. Je vous remercie pour votre attention.